Cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 8 avril 1987.
Comme une condition. condition sine qua non de votre jugement, expérience externe. Dans l'expérience interne, comment peut-on être sûr de l'objectivité? Justement, l'objectivité du jugement d'existence « je suis » est une objectivité très particulière, puisque c'est à l'intérieur du « je » que vous découvrez l'existence. Mais c'est quand même présent. Un sentiment très aigu d'un amour qui vous prend et qui vous saisit, on vous dira « Ah, c'est purement subjectif. Vous n'avez qu'à répondre, vous n'avez qu'à être à ma place et vous verrez que ce n'est pas sûrement subjectif. C'est un feu qui commence à brûler mon cœur. Je sais bien que c'est un feu métaphorique, mais plus réel que le feu. Qui brûle une maison. Quelque chose d'objectif. Je suis dans ce feu. Et je suis consumé dans ce feu. Tout en restant moi-même, le feu brûle et je demeure. Donc l'objectivité reste à l'intérieur de la subjectivité. Mais la subjectivité est première. C'est à l'intérieur d'une subjectivité. Par rapport à l'être premier, troisième jugement d'existence, atteint son existence directement. Alors, on l'atteint directement et on l'atteint pas directement. C'est ça qui est très délicat. Vous l'atteignez au terme d'un raisonnement en disant il est nécessaire qu'il existe un être premier. Et cet être premier, du fait même que vous le posez, ne fait pas nombre avec toutes les autres existées. C'est ça qui est très particulier. C'est pour ça que vous le touchez à travers le « je suis » et ceci est. Et vous le touchez pas directement, mais vous avez sa présence. Ça, c'est le phénomène de la présence. Déjà, pour l'âme, il y a ça. Le phénomène de la présence. Comme pour la substance, c'est un phénomène de présence. Mais vous l'atteignez. Vous atteignez directement l'existé de votre âme. Vous atteignez directement l'existé de votre substance. Tandis que l'existé de Dieu, vous l'atteignez qu'à travers les autres existés. Et comme quelque chose de plus présent que tous les autres existaient. Là, c'est pour ça que vous devez là dire à la fois il est présent et je n'atteins pas directement. Vous ne touchez pas directement l'existence de Dieu au plan philosophique. C'est toute la différence avec la foi. La foi atteint directement l'existence de Dieu. C'est pour ça que c'est si chaud, c'est si brûlant, puisque vous atteignez le feu dans la foi, par l'amour. Tandis que votre jugement d'existence philosophique n'atteint pas immédiatement l'existence de Dieu, mais il est présent. Il est présent d'une nécessité plus grande que la nécessité du jugement d'existence. C'est très curieux, ça. Je ferme la parenthèse. Puis nous continuons ce que nous avons commencé de voir au plan critique. Nous avons essayé de comprendre le lien, j'espère que là vous l'avez saisi, entre l'appréhension et le jugement. Ce lien si important qui fait que le jugement d'existence n'est pas synthétique, contrairement à ce que dit Kant. Kant dépend trop d'Occam, et c'est pour ça qu'il dit jugement synthétique. C'est de l'occamisme de dire jugement synthétique. Jamais, dans une philosophie réaliste, vous diriez que le jugement d'existence est un jugement synthétique. ceci est. C'est le verbe qui me fait atteindre ceci. Tandis que j'avais une synthèse, c'est le ceci qui me fera atteindre. Donc il faut arriver à comprendre l'erreur de Kant dans un jugement synthétique. Et cette erreur, c'est tout simplement de comprendre que le jugement vient après l'appréhension. Alors qu'en réalité, le jugement est antérieur à l'appréhension. Selon l'ordre de nature, puisque seul le jugement est parfait. Et tout est là. Si vous dites que le jugement est postérieur à l'appréhension, vous direz toujours que le jugement est synthétique. Et c'est très net pour Kant, puisque les formes a priori sont antérieures à l'expérience. Vous voyez, il y a le schéma de la science moderne qui commande tout Kant. Kant n'est pas sorti de la science moderne. Il n'atteint pas le regard philosophique. Il est méta-science. Et quand on est méta-science, on n'atteint pas la philosophie. C'est très important pour comprendre aussi bien Descartes que Kant. Le schéma profond de leur intelligence demeure la géométrie ou la physique. Et ils n'atteignent pas vraiment le jugement d'existence. Et donc, ils n'ont jamais compris que le jugement d'existence implique une identité. Ceci est. C'est une identité, c'est pas une synthèse. Parce qu'on ne peut pas additionner le verbe et le nom. Ça ne s'additionne pas. On additionne des cailloux. On additionne de la quantité. Mais on n'additionne pas le nom et le verbe. Le nom et le verbe sont corrélatifs l'un par rapport à l'autre. Évidemment, au point de vue du langage, ça fait deux. Nom et verbe. Ça, c'est le langage. Au point de vue de la signification profonde, il y a une coopération. Il y a une corrélativité entre les deux. Et c'est le verbe qui me fait atteindre le nom. C'est pour ça que c'est si important de bien comprendre que dans le jugement, c'est par le verbe que j'atteins le nom. C'est par le verbe que le terme simple de l'appréhension se transforme, se métamorphose en nom. En nom. Concret. Je passe de homme à pierre. C'est quand même très très curieux ça. Et c'est très très intéressant à saisir. De bien saisir toujours ce que je vous ai dit. Et je le répète parce qu'il faut le répéter 100 fois avant de le saisir. Le passage du concept, du terme de l'appréhension animale. Existe. C'est l'universel et le singulier, c'est être. la saisie du jugement d'existence, ceci est. Je réconcilie les deux en les dépassant. Ce qu'il faut toujours faire dans une dispute. S'il y a une opposition entre les deux, l'opposition vient qu'il y a un oubli du jugement d'existence. Et s'il y a l'oubli du jugement d'existence, nécessairement, il y aura l'affrontement. Si au contraire, je comprends ce troisième aspect, alors, je crois. Si j'oublie le jugement d'existence, le jugement sera une synthèse. Parce que deux choses tout à fait différentes. Si au contraire, j'ai le jugement d'existence, je vois que le jugement implique une unité qui unit la détermination dans sa singularité. Ça, c'est très important à comprendre et à saisir. Alors, vous n'avez qu'à réfléchir, tout simplement, parce que c'est ce qu'il faut faire. Réfléchir sur l'appréhension et le jugement. Et secouer ça dans tous les sens. Parce que c'est très important de saisir ça. Vous avez d'un côté l'abstraction pour la saisie de l'universel, de l'autre côté le retour au concret par le verbe. Et c'est l'appétit naturel de l'intelligence de rejoindre ce qui est. Et c'est l'appétit naturel de l'intelligence d'assimiler les déterminations. L'intelligence est inconsciente quand elle fait ça. Ça qui est merveilleux. Elle suit son appétit naturel. Alors, il y a certaines intelligences qui sont beaucoup plus portées vers l'universel et la définition. C'est vrai. Et des intelligences qui sont beaucoup plus portées portées vers l'universel et des intelligences plus concrètes portées vers le singulier. C'est vrai, ça. Ça dépend de tout un contexte dans lequel on a été éduqué. C'est très, très juste qu'il y a des intelligences plus portées vers l'appréhension et vers le jugement. Et les intelligences plus portées vers l'appréhension sont plus abstraites. Avec le danger de tomber dans la cérébralisation. Et de l'autre, le danger de tomber dans le positivisme. Voilà le danger des deux. La cérébralisation, vous perdez pédale. C'est ennuyeux. Vous ne savez plus où vous en êtes. Ah, animal. Animal. Oui, vous êtes avec l'animal. Ah non, non, animal, c'est bien supérieur au petit chat. Quand vous voyez un chat, animal, vous n'avez même plus caressé le chat. Parce que l'animal, vous ne le caressez pas. Vous n'avez même plus. Il y a une suspension de la sensation. Vous restez dans animal. Parce que l'immense avantage d'animal, c'est que ne vous griffe jamais. Tandis que le chat, ça peut arriver. Et puis il y a des gens qui sont dans le positivisme. Surtout pas tomber dans la cérébralisation. Je ne veux regarder que la réalité. Et bien, l'équilibre intellectuel consiste à maintenir les deux. C'est les deux. L'intelligence implique les deux. Elle a comme condition sine qua non pour s'éveiller l'abstraction. Mais l'abstraction n'est qu'un moment. Je ne contemple pas l'universel. Je ne contemple que des réalités existantes. Je ne contemple pas l'universel. La contemplation n'est pas dans l'abstraction. La méditation peut-être, mais pas la contemplation. Je contemple des réalités existantes. Le réalisme de la contemplation. Et si vous partez du côté de l'abstraction, ben oui, vous construirez des systèmes. Des systèmes doit le saisir intellectuellement, de façon très très forte. Parce que c'est important, on touche tout de suite l'équilibre fondamental de ma vie intellectuelle. Et la structure profonde et première de ma vie intellectuelle. Et je vois comment, à partir de Descartes, j'ai perdu pédale et j'ai cérébralisé. Tous. Descartes, Kant, Hegel, prima de l'abstraction. De façon différente, toujours, mais toujours ça. Et le jugement d'existence n'est plus premier. Et on peut dire que ça a commencé avec Occam, puisque avant Descartes, c'est lui. Donc ça a commencé chez les théologiens. C'est extrêmement curieux de voir ça. Mais c'est quand même la grande séduction de l'abstraction. La grande séduction. D'où la réaction violente à Bergson, qui veut revenir à quelque chose qui est l'intuition. C'est important de comprendre ces réactions de santé, qui sont des réactions saines. Mais il ne faut pas vivre dans la réaction. Vivre dans la réaction, ce n'est pas suffisant. Il faut redécouvrir. Et Bergson n'a pas redécouvert le jugement d'existence. C'est pour ça qu'il est resté dans l'aspect vitaliste. Une fois que je comprends que le jugement me permet de saisir ceci est. Donc d'avoir le contact avec l'autre. Je vois que l'autre, c'est à la fois ce qui spécifie mon intelligence et ce qui mesure mon intelligence. Alors là, il y a peut-être quelque chose de très important à souligner. Le point de vue de la réalité en tant qu'elle spécifie et en tant qu'elle mesure mon intelligence. C'est deux aspects différents. La réalité spécifie mon intelligence de deux manières. Elle spécifie mon intelligence par les déterminations qu'elle porte en elle.
Ce que saint Thomas dit en tant que théologien. Et donc ce
dit ça te, en tant que théologien, il ne précise pas. Pas besoin de préciser. Saint-Thomas ne fait pas de la critique. Saint-Thomas ne fait pas de la métaphysique. Il est théologien. Alors ça, c'est la liberté du théologien. Le théologien a le droit de prendre son bien partout, puisqu'il est croyant. Tout ce qui est vrai vient de Dieu, je m'en sers. Ça, c'est la liberté complète du théologien, qui irrite toujours un peu le philosophe. Hein. Parce qu'il est dans un étage supérieur. Et donc il a cette liberté. Le philosophe ne peut pas avoir la même liberté. Le philosophe, comme philosophe, doit être très attentif à ses différents points de vue. Donc, l'intelligence est spécifiée par l'acuité, par l'ipsum esse. Et l'intelligence étant spécifiée dans ces deux opérations, appréhension et jugement, par l'acuité, et par l'ipsum esse, l'intelligence comprend que la réalité, dans son existence propre, est au-delà de l'assimilation. Je n'assimile pas l'ipsum esse, mais j'assimile l'acuité. Et j'adhère à l'ipsum esse. Le jugement, c'est une adhésion au réel. J'adhère au réel. Et en adhérant au réel, je comprends que je suis mesuré par le réel. Je suis relatif au réel. Vous voyez, ces mouvements différents. Et c'est là où vous pouvez répondre à Sartre quand Sartre dit qu'il a horreur de ces philosophies de l'assimilation et que connaître, c'est embrasser l'arbre. Juger, c'est adhérer. C'est pas embrasser, c'est adhérer. Autre chose est adhérer, autre chose embrasser. Embrasser, c'est une attitude affective. La connaissance, c'est pas une attitude affective. Il peut y avoir une connaissance affective, ça c'est autre chose. Nous le verrons après. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intelligence adhère au réel et reconnaît que le réel mesure l'intelligence. Ceci nous permet de comprendre que dans le jugement, qui est une adhésion au réel, vous avez la conscience et vous avez la possibilité de la vérité. Les deux caractères propres du jugement, c'est d'impliquer la conscience. Vous n'êtes pas conscient au niveau de l'appréhension, mais vous êtes conscient au niveau du jugement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la conscience dont on se sert tellement aujourd'hui depuis Descartes? La conscience devient la panacée universelle. Or, la conscience n'est jamais quelque chose de premier. C'est toujours quelque chose de second. J'ai conscience de penser. N'allez pas dire que la conscience remplace la pensée. J'ai conscience de penser, j'ai conscience d'aimer, j'ai conscience de travailler, j'ai conscience de manger, j'ai conscience de boire, j'ai conscience de vouloir dormir. Puis à un moment donné, je n'ai plus conscience. Je suis passé de l'autre côté. Mais si vous avez trop conscience de vouloir dormir, vous ne vous endormez jamais. C'est pour ça que le grand procédé de dormir, c'est de ne pas avoir trop conscience de vouloir dormir. Et vous devez atténuer votre vouloir de dormir pour pouvoir dormir. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience repose, se fonde sur l'intelligence qui est capable de se réfléchir sur elle-même. Donc la conscience, c'est cette attitude réflexive de la connaissance. Il n'y a pas conscience au niveau de l'appréhension. un certain recul pour avoir conscience. Seul un acte parfait peut être conscient. Quand un acte est trop imparfait, il n'a pas conscience. Et la conscience, c'est la réflexion que j'ai sur ma propre activité. Et je prends conscience que je pense. Je prends conscience que j'aime. Vous voyez que la conscience est au-delà de la connaissance, au-delà de l'amour, au-delà de mes diverses activités. Alors qu'est-ce que c'est? Quand je dis qu'elle est au-delà de la connaissance, puisque j'ai conscience d'aimer, puisque j'ai conscience de manger. Alors, est-ce que c'est tout à fait juste de dire que la conscience est au-delà de la pensée? Ou est-ce que c'est tout simplement de dire que la pensée enveloppe toutes mes diverses activités? Si je n'avais pas connaissance que je pense, que j'aime, que je mange, que je désire dormir, je n'aurais pas conscience. Donc, la conscience, c'est cette attitude très fondamentale et tout à fait première de l'aspect subjectif de la connaissance. Peu importe ce que je connais, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je connais, que j'ai conscience de connaître. Et donc, c'est cette attitude d'auto-lucidité. J'ai la capacité de réfléchir sur mon opération de connaissance. Et grâce à cela, j'ai conscience d'aimer. J'ai conscience d'aimer par la connaissance. Ce n'est pas l'amour qui me donne une conscience d'aimer. C'est curieux, ça. Faudra voir pourquoi. J'ai conscience de voir et de regarder. J'ai conscience de manger. C'est toujours la connaissance intellectuelle qui a cette auto-lucidité et qui a conscience. Le phénomène de la conscience, c'est le phénomène d'un repliement sur soi-même. Un repliement intellectuel, pas un repliement affectif. C'est une lucidité qui fait que le terme et le point de départ sont en même temps. Et c'est pour ça que je peux avoir conscience. Si le terme et le point de départ n'étaient pas en même temps, je n'aurais pas conscience. Je serais dans le successif. L'aspect successif fait disparaître la conscience. Tandis qu'au contraire, l'immanence fonde la conscience. Et il faut une immanence parfaite comme l'immanence de la pensée intellectuelle pour que je puisse avoir vraiment conscience. Cette immanence qui fait que le point de départ et le terme sont simultanés en même temps. Donc cette conscience que j'ai de penser, de connaître, d'aimer, cette conscience n'est pas encore l'acte parfait. C'est quelque chose qui accompagne ma pensée. Mais ma pensée n'est pas finalisée par la conscience. Ça, c'est très important à souligner. Ma pensée n'est pas finalisée par ma conscience. La conscience permet à mon intelligence, permet à ma faculté de connaître, d'aller plus loin. Je sais où je vais. Je sais où je m'arrête. J'ai conscience de ça. C'est donc une condition de la vie intellectuelle qui a besoin de cette lucidité. Mais ce n'est pas la connaissance. La conscience, c'est l'intelligence qui se replie sur elle-même pour mieux connaître. Mais elle ne connaît pas sa conscience. Elle sait qu'elle a conscience. Elle peut, dans une attitude seconde, réfléchir sur la conscience, ce que nous faisons maintenant, pour essayer de préciser qu'est-ce que c'est que la conscience. Mais pas empêcher quelqu'un de prendre conscience qu'il parle. Mais vous pouvez lui demander de ne pas s'arrêter à la conscience qu'il a de parler. Parce qu'autrement, vous direz, il s'entend parler. Vous savez que c'est toujours très désagréable d'avoir quelqu'un qui s'entend parler. Parce que c'est pas... Il y a un mur entre vous et lui. Il s'arrête à la conscience qu'il a. C'est comme quelqu'un qui a conscience de penser et qui s'arrête à la conscience de penser. Et qui dit tout le temps, je pense bien. Tandis que celui qui pense est tout entier tourné vers l'objet. Et la conscience est au service de la connaissance. C'est là encore le piège dans lequel est tombé Descartes. Vous voyez, on est tout le temps obligé de donner la main à Descartes pour lui donner un coup de poing. On est obligé de lui donner la main. On ne le quitte pas. Parce que Descartes a donné à la conscience un rôle extraordinairement important. Il a lié cela à la certitude. J'ai conscience de penser, le cogito. Et c'est là où j'ai la plus grande certitude. Alors ça, c'est extrêmement curieux de voir ça. Parce que ça a fait un très grand tournant dans la pensée. Et ça, c'est propre à Descartes, vous voyez. C'est propre à Descartes d'avoir ériger la conscience de penser comme un absolu. Peu importe à ce que je pense, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience de penser. Peu importe ce que vous dites, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est d'avoir conscience que vous dites quelque chose. Voyez, là, vous étouffez la finalité propre de la pensée. Et vous tombez dans le subjectivisme le plus absolu. Parce qu'avoir conscience de penser, ce n'est pas la pensée. C'est la propriété de la pensée. C'est la condition sine qua non de la pensée. Mais ce n'est pas la pensée. La pensée, elle est objective. Elle est déterminée par quelque chose. C'est ça qui est important. Donc c'est l'aspect subjectif qui passe avant l'aspect objectif et qui devient le principal. Et c'est pour ça que cet aspect subjectif aura comme caractère propre de me donner la certitude. J'ai la certitude de penser grâce à la conscience que j'ai de penser. Et c'est cette certitude qui devient l'aspect principal. Conscience et certitude qui devient la chose principale. C'est très important de comprendre cette séduction qu'il y a dans la conscience de pensée qui me donne la plus grande certitude. Vous comprenez très bien que la conscience de la pensée me donne la plus grande certitude. Et à ce moment-là, je ne suis plus dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis dans l'autonomie la plus parfaite. Tandis que quand je pense à quelqu'un, quand je pense à quelque chose, je suis ordonné et dépendant. Et donc j'ai quelque chose d'extrinsèque qui vient me déterminer. Tandis que dans cette attitude d'autoréflexion sur ma propre pensée, je suis complètement autonome. Je suis séparé du monde de l'objet. Et j'ai le primat de cette certitude. Le primat de cette certitude de pensée.